I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha. We're going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah!
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 299 du podcast John Actual à Matéi. Très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous preview de la semaine. À mes côtés, cette semaine, nous avons tout d'abord Grégory Richard, polo bleu. Bonjour Grégory.
Salut Alain, bonjour à tous.
C'est un t-shirt, pardon. Oui. Polo rouge à côté de lui, c'est Raoul Villeroy. Bonjour Raoul.
C'est moi, salut.
Et je crois que c'est de l'orange. Je crois que c'est du orange.
Ouais. Ouais. Genre parce que là, orange. Il fait semblant que du coup, il voit ouais. Tout bien. Mais bon, bref.
Ben ouais, mais visiblement, la caméra n'est pas très claire.
Et voilà.
Donc, Camille Saraben est là aussi. Bonjour Camille.
Salut.
Messieurs, la preview, donc on est à son quatrième épisode, c'est la 299, j'en profite pour rappeler évidemment que la 300e, ce sera en public au Hard Rock Café le dimanche 1er septembre à partir de 18h, avec repas avec l'équipe après, n'hésitez pas à réserver, les détails sont sur le site aussi. Donc, je disais, quatrième et dernière partie de notre preview, on a parlé du power ranking, on a parlé grandes questions de la saison, on a parlé des tops et des flops, il est temps évidemment de faire des pronostics de partout, des pronostics individuels, des pronostics collectifs. On va faire tout ça, mais avant.
Live from Studio 3C and Rockefeller Center, this is Today in New York.
Messieurs, c'est la grosse nouvelle de la semaine en NFL, l'énorme nouvelle qui perturbe évidemment notre programmation. Andrew Luck est désormais à la retraite, il a 29 ans, 86 matchs de saison régulière en carrière, 171 touchdowns, 83 interceptions, 174 sacks encaissés, ça fait un peu plus de 2 par match en moyenne, 89,5 d'évaluation en playoff, 8 matchs, 4 victoires, 4 défaites. 12 touchdowns, pardon, 13 interceptions. Il est dans notre générique. Il n'y avait quasiment pas besoin de jingle. Alors, je précise tout de suite qu'il va y rester dans notre générique. Mais c'est fini. C'est fini et ça fait forcément quelque chose. On a découvert la nouvelle dans la nuit de samedi à dimanche. C'était pendant le match Colts-Bears. La nouvelle a fuité pendant le match. Elle a été confirmée ensuite en conférence de presse par Andrew Luck lui-même. La plupart des gens se sont réveillés avec cette nouvelle dimanche matin. On va commencer peut-être par ça, par le choc, par l'émotion. Il n'y a pas un million d'analyses à faire, il n'en pouvait plus physiquement. Mais on va plutôt être dans la nostalgie quasiment déjà. Quel souvenir vous garderez d'Andrew Luck, Raoul?
Ah, moi j'avais beaucoup aimé les petites vidéos quand il était avec le micro qui montraient comment il félicitait ses adversaires qui venaient le saquer. Ça me faisait toujours marrer d'imaginer le type ultra énervé qui lui fonce dessus, qui est trop content qu'il fait son sac, et là Luck au sol qui le regarde, fait bien joué mec, ça c'était un super sac. Et ça doit être tellement perturbant, et c'était ce côté un peu toujours de bonne humeur, il était très souvent positif et tout, donc
aussi ce qui contribue au fait, je pense qu'il est apprécié, je pense, par beaucoup de joueurs dans la ligue, parce que on voit le côté un peu du joueur qui lui fonce dessus et qui est déçu qu'il le félicite, mais voilà, c'est peut-être aussi un moyen, même si je pense qu'il jouait un peu avec ça, de mettre aussi en avant l'effort de son adversaire. Et je pense que ça pouvait être apprécié.
Voilà, moi c'était ça les souvenirs que j'ai d'Andrew Luck.
Greg, tu retiens quoi de cette carrière?
Bah forcément déjà le fait qu'il ait permis à Indianapolis de revenir en avant très rapidement, dès sa saison rookie en l'occurrence, et puis forcément en point d'orgue ce match de playoff contre Kansas City, où il avait renversé les Chiefs quasiment à lui tout seul avec une victoire à l'arrache 45-44. Voilà, avec quand même, quoi qu'on puisse en dire, un casting qui a très souvent été assez décevant autour de lui, qui ne l'a pas forcément permis d'aller au bout. Et voilà, mais bon, après, ce qu'on retient surtout en grande partie, c'est forcément une carrière assez courte malgré tout, parce que certes, il avait 29 ans, mais on l'a dit, il n'a quasiment pas joué pendant 2 ans. Et c'est un talent qui a quand même été gâché, je trouve, pendant la majeure partie de sa carrière.
Ouais. On rappelle les blessures, puisque c'est à cause de ça qu'il s'en va. Déchirure du labrum en 2016, saison blanche en 2017. Donc le labrum, c'est dans l'épaule. Ça a été le gros problème. Mais on oublie aussi cartilage déchiré sur deux côtes, déchirure partielle de l'abdomen, lacération du rein, où littéralement il urinait du sang quand même après ce problème-là. Au moins une commotion. Et puis une blessure à la cheville, dont on ne sait toujours pas vraiment ce qu'il a. On ne saura peut-être pas avant un moment, ou en tout cas a posteriori maintenant, ce qu'il avait. Depuis le mois d'avril ou mai, il ne s'entraînait plus. C'était d'abord une douleur au mollet. Ensuite, on parlait de préserver son tendon d'Achille. Ensuite, c'était devenu une douleur à la cheville. Ensuite, c'était osseux. On ne savait plus exactement ce qu'il avait. On attendait qu'il soit remis pour le début de la saison. Finalement, c'était donc cette retraite surprise qui est arrivé dans la nuit de samedi à dimanche. C'est vraiment ce souvenir-là aussi qui va rester, comme tu le disais, Grégory, peut-être, c'est de ce grand gâchis. Il a joué 1, 2, 3, 4, 5 saisons complètes. Celle de 2015, il ne joue que 7 matchs. Donc seulement 5 saisons complètes. Il prend pas mal de sacs. Il prend 41 sacs sur sa saison rookie, 32 après, 27, 15 en 2015, mais il ne joue que 7 matchs, 41 sacs en 2016. Et enfin, il n'en prend que 18 l'an dernier, mais finalement, c'est trop tard. Il y a une terrible ironie, c'est qu'il part sur un titre de comeback player de l'année.
Oui, c'est vrai, j'avais oublié cette histoire.
Il est élu comeback player de l'année et il s'en va. Donc, c'est quand même l'ironie.
Finalement.
C'est l'ironie qui est la plus terrible, parce qu'il termine l'an dernier avec 39 touchdowns et 15 interceptions, 98-7 déval. C'est sa meilleure saison statistique en carrière.
En plus, oui.
Donc, c'est quand même très, très violent. Après, passons au-delà un peu de l'émotion. Si on doit dresser le bilan, Grégory l'a dit, carrière courte, on a souvent eu le débat, est-ce qu'il est apprécié à sa juste valeur, surcoté, sous-coté, est-ce que c'est l'élu, est-ce que c'est pas l'élu? Statistiquement, il a 89,5 déval en carrière, et en play-off, c'est 12 touchdowns, 13 interceptions. Est-ce qu'il était si fort que ça?
Est-ce qu'on a eu le temps, finalement, de voir la pleine mesure de son potentiel? Parce que tu le dis, il fait pas beaucoup de saisons complètes. Et quand il est là, il est très souvent détruit par les défenseurs adverses. Donc, est-ce que... j'ai du mal à dire qu'il était surcoté, dans la mesure où je pense qu'on l'a vu seulement l'an dernier ce qu'il valait pour de vrai. Et que, malheureusement pour lui, ça s'arrête là.
Est-ce que Greg, c'est pas un joueur dont l'influence elle est au-delà des stats aussi? Tu l'as dit, il y a les playoffs dès la première saison, il y a des grosses remontées, il y a des choses comme ça. Est-ce qu'on peut le résumer aux stats, ou justement est-ce que son influence elle est au-delà de ça?
C'est un peu ce que j'allais dire à ta question précédente, c'est-à-dire que déjà ce qui était assez marquant, pas avec Andrew Luck, et c'était déjà assez marqué quand il était à Stanford en college football, c'est vraiment ce côté force mentale, leadership. Et honnêtement, j'ai rarement été aussi sûr d'un prospect en sortie d'université que depuis Andrew Luck. Voilà, ça faisait quasiment pas de doute qu'en arrivant en NFL, il arriverait rapidement à se mettre dans le bain. Après, je pense qu'il y a peut-être péché pour lui aussi, c'est beaucoup de circonstances pour peut-être trouver un certain rythme de croisière. Faut pas oublier que c'est dès son année rookie où Chuck Pagano a des problèmes de maladie, où il change de head coach. Enfin, il y a quand même eu beaucoup de... ça a souvent été les montagnes russes, on dira, pendant sa courte carrière du côté d'Indianapolis. Et forcément, je le disais tout à l'heure, avec un casting qui est pas toujours à la hauteur, avec un coaching staff qui change beaucoup autour de lui, c'est pas forcément toujours l'idéal pour avoir un joueur qui arrive à se stabiliser, à vraiment pleinement progresser. Et pourtant, paradoxalement, on l'a dit, hein, en quoi 5 ans, il fait 4 Pro Bowls.
Oui, c'est vrai. Et après, moi, je résumerai aussi peut-être à la différence quand il est pas là, quand il est là et quand il est pas là. C'est-à-dire que même si ses stats sont pas toujours rutilantes, on voit ce qu'était Indianapolis sans lui en 2017. Et on comprend aussi toute son influence, puisque du coup, c'est une saison catastrophique pour les Colts quand il n'est pas là. Et tu l'as dit, même malgré des effectifs qui n'étaient pas incroyables, il tirait cette équipe vers le haut et on voyait bien que quand il n'était pas là, il n'y avait pas grand-chose et les Colts étaient à la ramasse.
C'est ça. Et puis, malgré tout, c'est toujours pareil. Alors, des fois, on regarde les stats brutes. Alors, voilà, moi, je mets toujours Brady hors catégorie parce que, voilà, c'est pour moi, ça reste une machine. Mais il y a ce côté un peu... Il y a ce côté un peu comme Aaron Rodgers où même quand statistiquement c'est pas extraordinaire, on sent le côté un petit peu métronome, le côté chef d'orchestre d'une attaque, c'est assez bluffant et c'est vrai que Andrew Luck avait cette capacité et c'est notamment quelque chose qu'on avait retrouvé en fin de saison régulière et notamment en playoff lors de la victoire à Houston, c'est ce côté vraiment où on sent qu'il prend le contrôle des choses et tout est bien fait, quoi. Il n'y a pas de grandes envolées ou quoi que ce soit, mais c'est millimétré. Quoi.
Un petit mot sur les Colts maintenant. La preview est publiée sur le site, si vous voulez aller jeter un œil. Jacoby Brissett est le quarterback titulaire. Chad Kelly est a priori son remplaçant, même si je crois qu'il est suspendu le premier match, si je ne dis pas de bêtises, voire plus. Il y a une petite suspension, je crois, qui traînait pour Chad Kelly suite à son incartade.
Ah oui, sur Kelly, oui, je croyais que tu parlais
de Brissett.
Oui, ce serait étonnant. Chad Kelly, ouais.
Donc, Jacoby Brissett, est-ce que les Colts sont totalement perdus? Est-ce que c'est numéro 1 de la draft en puissance? Ou est-ce que, quand même, il ne faut pas oublier qu'il y a T.Y. Hilton, qu'il y a Frank Reich maintenant qui est au coaching, qu'il y a Quentin Nelson sur la ligne, qu'il y a une ligne qui est solide, qui a autorisé que 18 sacs l'an dernier quand même. Et puis, des joueurs en défense comme Darius Leonard, comme Hooker, qui a du monde finalement, et qui pourrait ne pas être si au fond du trou que ça.
Ouais, mais est-ce que c'était pas Luck le liant de tout ça et un peu le succès l'an dernier, la pierre angulaire du succès des Colts l'an dernier? Moi, j'ai l'impression que c'était un peu le cas, et forcément, quand du jour au lendemain. Alors, peut-être qu'il le savait depuis un peu plus longtemps que nous, mais je pense pas que Luck, ça fait un mois qu'il soit décidé. Et bah, il faut repenser un peu tout ton plan de jeu aussi. C'est pas le moment le plus évident. Je pense que le début de saison va être très difficile du côté d'Indianapolis. À voir s'ils arrivent à se mettre rapidement dans le bain et à s'adapter. Mais enfin, c'est quand même une énorme perte. Tu peux pas le nier, même s'il y a des arguments à côté.
C'est ça. Je rejoins Raoul là-dessus. Et honnêtement, alors on va penser que je suis très critique sur Chris Ballard pour rien. Mais on a vu qu'il y avait une intersaison qui avait été assez discrète de la part d'Indianapolis, mais avec les moyens qui étaient les leurs. Là, on va clairement savoir si l'organigramme, on dira, d'Indianapolis a fait des économies en se disant c'est pas grave, il y a Andrew Luck. Là, on va voir si vraiment ils ont un plan B et s'ils se sont dit bon, même avec Jacoby Brissett, ce qu'on va mettre en place, ça va suffire. Et j'ai encore quelques doutes. Je dirais pas numéro 1 de la draft parce que je pense qu'Indianapolis, surtout dans la FC Sud, oui. On aura le temps d'en reparler tout à l'heure, mais je pense qu'ils auront quand même leur chance. Après, avec un jeu au sol qui était déjà un point d'interrogation, forcément les défenses vont tester beaucoup plus le jeu aérien, ce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de faire avec Andrew Luck, je pense.
C'est ça. Attention, après, moi je disais pas qu'ils allaient non plus. C'est vrai qu'ils vont taquiner les playoffs ou forcément, mais voilà, je voulais dire, ils sont pas fond du trou.
Ah oui, non, là-dessus, oui, je te rejoins. Ouais.
Non, ils seront peut-être 20e à la fin de la saison au général, mais bon.
Bon, en tout cas, évidemment, le choc pour tout le monde, on l'a vu même un peu sur le chat interne de la rédaction, c'était un drôle de dimanche matin. Donc, Andrew Luck n'est plus un joueur NFL. Après cette petite parenthèse, on va passer au programme prévu originalement, celui des pronostics, c'est juste après ça. Now that you're gone. Un dernier petit hommage à Andrew Luck et on repart vers la NFL du présent maintenant, puisque c'est horrible à dire, mais Andrew Luck est dans la NFL du passé depuis quelques jours. C'est horrible, j'ai l'impression de parler comme s'il était mort. Mais il va vivre une vie heureuse par contre, hein. Il a 100 millions de dollars et il a un diplôme en architecture de Stanford quand même.
Ouais. Donc, non, c'est bien, je suis content pour lui en fait, voilà, ça sera mon mot final là-dessus, je pense qu'il a fait.
Ah oui, par contre, il n'y a aucun reproche à lui faire. Enfin voilà,
shame sur ceux qui ont sifflé à la fin du match parce que c'est vraiment pas bien.
Oui, j'ai fait la liste de ses blessures. Je pense que déjà en supporter une pour le commun des mortels, c'est déjà assez compliqué.
Ouais.
La déchirure du labrum, le rein lacéré. Enfin voilà, je vous laisse choisir votre truc. Mais
après, je justifie pas, mais je suis pas sûr que c'était Andrew Luck en lui-même qui était sifflé. Mais je pense qu'il y a plus une question de timing, d'incompréhension. Mais bon, voilà. C'est encore une fois, je ne cherche pas à le justifier. Je pense que c'est la déception qui était très mal exprimée.
Dans deux minutes, Greg, il va faire « Ouais, il avait qu'à serrer les dents, ça
non,
va ?»
Non, mais pas du tout. J'ai été consterné également, ça reste le timing, en l'occurrence, qui pose question, je pense pas beaucoup.
Je plaisante. Messieurs, on passe aux pronostics. On va commencer par les pronostics individuels, et ensuite, parce que individuel, c'est le superficiel, c'est le bling-bling, et après, on terminera avec le gros du truc, qui est le collectif, parce que c'est pour ça qu'on joue, c'est pour l'équipe. Le MVP, on va commencer par ça. Très simplement, alors j'ai vos pronos devant les yeux, mais je vais vous laisser les rappeler. Donc, MVP de la saison, roulement de tambour. Qui veut commencer? Qui sera MVP 2019?
Est-ce qu'on a le même déjà?
Non, vous n'avez pas le même.
Ah.
Allez, Raoul, vas-y, lance-toi.
Todd Gurley, non, je déconne. Moi, j'ai choisi Drew Brees. Je pense, alors ça, vous allez voir que les pronos sont un peu liés, mais je vois bien les Saints sur une année très très victorieuse. Honnêtement, je regardais leur calendrier tout à l'heure. Tous les matchs sont à leur portée. Ils pourraient finir en 16-0, que je ne serais pas surpris. Et dans ce genre de situation, j'ai du mal à imaginer que Drew Brees 1 ne soit pas à la baguette, chef d'orchestre d'une telle réussite, et que du coup 2, il ne soit pas MVP de la saison, comme l'avait été notamment Cam Newton lors de la saison quasi parfaite des Panthers.
J'en profite pour dire, on a fait un sondage dans la rédaction, on publiera les résultats. Drew Brees arrive a priori premier. Tout le monde n'a pas encore voté, mais en tout cas sur les votes provisoires, j'ai il a l'air d'être premier pour l'instant. Grégory.
Écoute, même logique que Raoul, mais pour un joueur différent. J'en avais parlé en amont lorsqu'on avait fait notamment le Power Ranking. Je vois une bonne saison pour les Eagles et un retour, pour un bon retour en tout cas, une saison enfin complète pour Carson Wentz. Et je pense qu'avec les cibles qu'il a, l'attaque qui devrait être de nouveau explosive du côté de Philadelphie cette année, je mise une bonne pièce sur Carson Wentz, MVP de la saison, pour rattraper un petit peu l'injustice de 2017.
Sûr. Tu vas faire des ravis dans la rédac.
Oui, je trouve ce choix, comment dire, c'est osé quand même, Carson Wentz.
Oui,
parce
oui.
Il faut qu'il finisse la saison, quoi. C'est ça. Déjà, c'est la première question.
Et alors, Greg, t'es le seul dans la rédaction à avoir mis Carson Wentz.
Ah, c'est pas très grave. Même nos fans inconditionnels des Eagles n'ont pas fait.
J'assume mes choix, mais honnêtement, je pense que ça joue dans un mouchoir de poche. Mais encore une fois, je le vois bien. On lui a mis une bonne ligne pour le protéger. Et les questions de blessures, je suis pas.
Non, mais pourquoi
aussi
pas? C'est pas un choix délirant, attention.
Oui, non, mais. Ouais.
Je pense que le quarterback qui gagnera le plus de matchs cette année sera MVP, hein. C'est assez souvent le cas.
Je donne les choix de Raphaël après les vôtres. Raphaël est le seul de la rédaction qui a choisi un défenseur. Il a choisi Aaron Donald. Pour être tout à fait complet, Raphaël avait choisi Andrew Luck à la base, dans son bulletin, et il m'a envoyé une correction aujourd'hui. Donc il avait non seulement Andrew Luck, mais il avait Frank Reich coach de l'année. Il a changé les deux choix. Donc il est passé sur Aaron Donald.
Il a pas dit que Luck serait son MVP de cœur, du coup, un truc comme ça.
Ah, je sais plus. Non, il ne l'a pas précisé. J'ai pas vu. J'ai pas fait attention. Je suis désolé. Et du coup, on a tous des choix différents puisque j'ai Patrick Mahomes. Je trouve qu'il revient pas forcément souvent, mais je vois pas pourquoi en fait il pourrait pas répéter. Alors évidemment, les attentes vont être ultra hautes puisqu'il sort d'une saison à 50 touchdowns et qu'il y avait l'effet de surprise entre guillemets. Donc ça va être très compliqué de doubler la mise. Mais il est hyper jeune, il a le bras. Alors je sais que la pré-saison veut rien dire, mais on voit qu'il est quand même toujours hyper affûté. Il est toujours coaché par Andy Reid, il a toujours Travis Kelce, il a toujours Tyreek Hill du coup. Il a Mecole Hardman maintenant, qui a un autre dragster à sa disposition. Je pense qu'au jeu au sol, sur le jeu au sol, ils vont s'en sortir pour l'entourer. Donc je vois pas pourquoi ils continueraient pas à carburer sur le même rythme. Et du coup, Patrick Mahomes est mon MVP. Pour vous donner un petit panorama, Patrick Mahomes est numéro 2 dans les votes, dans la rédaction. Et sinon, on a... Ah bah non, il y a deuxième Carson Wentz, pardon.
Ah bah tu vois.
Ouais, il y a un deuxième Carson Wentz.
Des noms, des noms.
Ah, tu veux des noms. Alors, Carson Wentz, c'est Swan qui l'a mis, qui publie des papiers histoire pour ceux qui lisent le site. On avait un autre Andrew Luck, Kevin Zermatten n'a pas eu le temps de changer. Et Drew Brees, on a Kevin Martin, on a Jean-Michel Zappa, on a Raoul Villeroy, Tiffany, notre photographe, Mathieu, Guillaume Berson qui fait les tableaux noirs. Je situe pour ceux qui lisent. Je crois que j'ai fait le tour, j'espère que j'oublie personne. Et après, pour les Patrick Mahomes, on a Brice Duhamel, on a Cyril, on a Sébastien, Victor, moi-même, Mehdi, et je crois que j'ai fait le tour.
C'est serré, voilà. Quand même.
Mais encore une fois, tout le monde n'a pas voté, mais ça vous donne un petit panorama. Donc, c'est très réparti. Drew Brice pour Raoul, Carson Wentz pour Grégory, Aaron Donald pour Raphaël, et Patrick Mahomes pour moi-même. Coach de l'année, allez, on va continuer dans cet ordre-là. Tiens, Raoul.
Bah, du coup, pour rester sur la même logique, dans un scénario où les Saints rouleraient sur la NFL, j'ai du mal à imaginer que Peyton puisse ne pas l'avoir. Alors, je vois Grégory
j'imagine qui un grimace. Scénario où les Saints roulent sur la NFL.
Bien sûr, Grégory, grand fan des Falcons, comme chacun sait.
Du coup, tu changeras ton bulletin parce que tu avais Frank Reich sur le sondage de la rédac.
Ah bon ? Bah, pourtant, décidément. j'ai relu tout à l'heure, je pensais avoir pris Peyton, et dans ma tête, c'était logique d'avoir Peyton. Oui, bah, du coup, j'ai dû changer suite à Frank Reich aussi, mais bah, mêmes arguments, même logique. Si les Saints gagnent tout, je vois pas comment Peyton pourrait ne pas l'avoir.
Grégory.
Juste une petite parenthèse, ça veut donc dire que si Frank Reich est coach de l'année, c'est uniquement à Sandro là que si je suis la logique.
Oui,
bah, de toute façon, il faut avoir un bilan positif.
Je suis sûr.
Alors, moi, je pars du principe que généralement, le coach de l'année est souvent un coach débutant. Et que le coach débutant qui a le plus de chances de se mettre en évidence cette année, c'est Freddy Kitchens avec Cleveland, vu le casting qu'il a. Encore une fois, on l'a dit, il y aura une grosse pression et ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Surtout quand on connaît l'historique un petit peu fâcheux des Browns. Mais je vois bien Freddy Kitchens être nommé en fin de saison, puisque je vois les Browns bien figurer dans l'AFC.
Eh ben, je suis comme toi, Greg, c'est-à-dire que je me suis naturellement tourné vers les débutants. Alors, j'ai vérifié les derniers coachs de l'année, il y a un peu de tout. Dans l'ordre, en revenant en arrière, Matt Nagy, donc l'an dernier, Sean McVay, Jason Garrett, Ron Rivera, Bruce Arians, Jim Harbaugh et Bill Belichick en 2010. Belichick n'a pas été coach de l'année depuis 9 ans.
Hein. Ron Rivera et Bruce Arians, ils se sont alternés 4 ans ?
Exactement.
Incroyable.
C'est très étrange, mais en effet, t'as eu 4 ans où ça a fait Rivera Arians.
Parce que Rivera, l'année parfaite, je veux bien, mais l'autre.
Donc, du coup, ça veut dire que le coach de l'année, sur la dernière décennie, n'a jamais gagné le Super Bowl.
Non.
D'accord.
Bah non.
Mais Belichick en 2010, je crois que c'était Green Bay.
C'est ça.
Ouais, ou les Saints, ça dépend quelle année.
Mais aussi. Alors, du coup, moi, naturellement, je ferais comme toi et j'hésite en fait entre Freddy Kitchens et Matt LaFleur. Celui qui fera le meilleur parcours en fait quoi. Si les Packers reviennent très bien placés en NFC, se qualifient pour les playoffs, etc. Je pense que Matt LaFleur peut prendre le truc. Et Freddy Kitchens, en effet, si les Browns justifient la hype et sont en playoffs, a priori ça semble être pour lui. C'est pile ou face. Je vais mettre Freddy Kitchens. Raphaël, je suis en train
Il avait pris Frank Reich aussi.
Il avait pris Frank Reich. Il a changé pour Andy Reid, ce qui est pas non plus un mauvais choix. Puisque ça fait 10 ans qu'il ne l'a pas eu, et du coup Andy Reid, Raphaël, Sébastien aussi, et quelques autres, encore une fois, hein, je vous mettrai le total sur le site quand on aura fini, mais c'est assez varié, hein. Coach de l'année, on a du Kitchens, on a du Sean McDermott, du Belichick, du John Gruden, il y a un optimiste, Pete Carroll, Mike Zimmer, Reid, Peyton, Kitchens, Reich, et après on revient sur Kitchens, et il y avait pas mal de Frank Reich, je ne sais pas s'il y en a qui vont changer. Défenseur de l'année, Raoul.
Alors pour le coup, Aaron Donald. En fait, il y a deux raisons. Un, j'ai du mal à imaginer que quelqu'un fasse mieux que lui. Et deux, j'ai du mal à imaginer qu'il baisse le pied par rapport à ce qu'il a fait l'an dernier. Qui lève le pied en l'occurrence, c'est ça l'expression. Voilà, aujourd'hui c'est clairement le meilleur défenseur de la ligue et il a de quoi reproduire les exploits de l'an dernier, donc normalement c'est pour lui.
Alors, Donald a mon vote, Donald a le vote de Raphaël, il a une écrasante majorité de votes dans la rédaction, mais heureusement, nous avons un représentant de la rébellion. Un représentant de ceux qui pensent qu'Aaron Donald peut être détrôné de son titre de défenseur de l'année. Ouais. Grégory, qui as-tu ? Et je crois que t'es... Ah non, t'es pas le seul.
Et je suis tellement rebelle que je m'en rappelais plus il y a encore 3 secondes. Oui, Miles Garrett. Je continue sur ma logique de Cleveland où je vois les Browns bien figurer. Miles Garrett qui a... pas eu que des, enfin qui a eu quand même des deux premières saisons un peu émaillées par des blessures et qui pourtant a fait des très bonnes saisons statistiques. Je pense qu'il est capable de nous péter une saison à 20 sacs.
C'est possible. Bah oui, j'y crois volontiers.
C'est tout à fait possible. On avait du Miles Garrett, donc en plus il y a un Calais Campbell.
Oui, je m'en souviens.
Il y a un Calais Campbell, il y a du Khalil Mack, du Jamal Adams, du Bobby Wagner et du Jalen Ramsey.
Et zéro
aussi.
DJ Watt. Et ça, j'étais un peu déçu.
C'est fini, c'est fini. Ouais, je vais faire des amis. Je suis déjà adoré par les fans des Texans. Il has been, JJ Watt. Je n'ai pas peur de le dire.
Captain America, ça fait longtemps que c'est sorti. Maintenant, les gens ils sont lassés. joueur offensif de l'année, Monsieur Polo Orange, Raoul, c'est à vous.
Eh bien, je rejoins la théorie de Grégory sur les Browns, puisque je crois en plus être le seul à avoir choisi Odell Beckham Jr.
Yes, sir.
Il a Grégory fait des yeux de 30 cm de long. Odell Beckham Jr., puisqu'il est dans un contexte un peu particulier où il est complètement attendu au tournant. Il va être la star de l'équipe sans conteste et il a de quoi être nourri sur le terrain et un peu pour son ego aussi. Et dans tous ces éléments-là, je pense qu'il est tout à fait capable d'évoluer au plus haut niveau et du coup de vouloir prouver à toute la NFL que il est aujourd'hui un des meilleurs receveurs en faisant exploser les statistiques.
Il va falloir une sacrée saison statistique pour être joueur offensif de l'année en tant que receveur quand même.
Ouais, je m'en doute bien, mais le côté un peu hype, diva et market hein, de Odell Beckham Jr. pourrait jouer dans ce sens, je pense.
Calvin Johnson l'avait eu lors de sa saison record ?
Je suis...
Non. Je comprends, ça fait des années qu'il n'y a pas eu de receveur, je crois.
Tu me mets un doute. Je vais chercher en même temps que tu me donnes le tien.
Peterson, Greg. Forcément, avait eu MVP même sans battre le record, mais je ne sais plus si Johnson, en battant le record, l'avait...
Je vais te dire ça, Greg. Dis-moi ton joueur offensif de l'année.
Ça va aller vite. Même logique que... Bon, je vais spoiler un petit peu, on va dire tout à l'heure, mais je vois les Eagles avoir le meilleur bilan, donc Carson Wentz être MVP. Je vois les Chiefs avoir le deuxième meilleur bilan, donc Patrick Mahomes, meilleur joueur offensif.
Oui, alors le joueur offensif, c'est toujours un peu particulier en plus.
Il le donne souvent au MVP, ce qui est un peu casse-pied. On est parti du principe, j'imagine que c'est pas forcément le même joueur.
Oui, moi je le donne. Généralement, comme c'est un joueur offensif, je le donne au deuxième joueur offensif histoire de récompenser un maximum de gens. Mais bon, encore une fois, prenais l'exemple de Peterson, l'année où il est MVP, il est aussi joueur offensif. Oui. Ah, donc, j'ai répondu à ma question, je crois.
Je ne me rappelle plus de l'année, c'est quoi, c'est 2012 ou 13, hein, l'année énorme de Calvin Johnson. Ouais. De toute façon, il a jamais été joueur offensif.
Tu prends la liste des derniers joueurs offensifs de l'année.
Alors, je l'ai en revenant en arrière. Donc, Mahomes 2018, Gurley 2017, Matt Ryan 2016, Cam Newton 2015, DeMarco Murray 2014, 2013 Peyton Manning, 2012 Adrian Peterson, Drew Brees 2011, Tom Brady 2010, et en 2009, Chris Johnson.
Ah.
Et ouais. Et après, si on remonte, je vais pas tout vous refaire. Il y a un triplé de Marshall Faulk entre 99 et 2001.
Donc, il n'y a jamais eu de receveur, si je suis de ta logique.
De receveur, eh ben non. Attends, écoute.
Ce que j'allais dire, je crois pas qu'il y en ait beaucoup des receveurs. Hein. C'est difficile.
Jerry Rice en 1993.
Waouh.
Wow. Ouais, d'accord.
Merci à lui.
Jerry Rice en 1987.
Odell, tu sais ce qu'il te reste à faire.
Allez, Odell. Mais honnêtement, ce côté, encore une fois, de marque de la NFL, de visage de la NFL qui peut être, peut plaider en sa faveur.
En tout cas, donc Jerry Rice l'a fait deux fois et Beckham le rejoindrait.
Après, ce qui est compliqué avec les receveurs, c'est que généralement, c'est des binômes. Donc c'est vrai que ça partage un petit peu le spotlight également.
On a encore des choix différents du coup. Alors, j'ai pas le joueur offensif de l'année de Raphaël, donc je crois qu'on n'avait pas dit qu'on ferait ça peut-être dans l'émission. Bref, on le remettra dans
il
le.
Il l'a pas mis
le
sur le.
Non, je l'ai pas de. Ah, je l'ai pas devant moi. Je l'ai pas devant moi. Je vais vérifier sur le chat, tu veux dire, mais je crois pas que je l'ai. En tout cas, il est pas dans le.
Ah, il aurait mis Saquon Barkley.
Alors, moi, j'ai mis Saquon Barkley. J'ai mis Saquon Barkley, 2028 yards l'an dernier, 1307 au sol, 721 dans les airs. C'est le seul joueur à plus de 2 milliards avec Ezekiel Elliott l'an dernier. Elliott n'est pas là pour l'instant. Il n'y a pas grand monde autour de lui. Ils ont récupéré en plus Kevin Zeitler, qui est un bon lineman en provenance de Cleveland. Je me dis, après tout, il va être le seul à surnager à New York. Tu parlais de côté médiatique. Alors, c'est pas un Odell Beckham, mais je veux dire, il va être à New York. Il ne va pas manquer de médiatisation, normalement. Il va faire pas mal de prime time. Il va exploser quelques défenses. Donc pourquoi pas, Saquon Barkley, c'est quand même une arme assez incroyable en attaque. Et comme dit, ça peut être le non MVP, mais qui est derrière, qui fait une belle prestation, qui fait une grosse saison. Donc s'il passe encore les 2 milliards, pourquoi pas.
Je pense que ça passe de toute façon par une énorme année au sol, mais beaucoup dans les airs aussi. Je me souviens que j'ai oublié celui des Cardinals qu'il avait eu, le rookie offensif de l'année Johnson. Mm-hmm. Il avait aussi beaucoup de réceptions à la passe et ça joue.
Le comeback de l'année, alors espérons que ça ne devienne pas un trophée maudit, puisque donc Andrew Luck est le tenant du titre. Le comeback de l'année, je crois que tout le monde, il y a beaucoup de monde qui a choisi le même. Raoul, je te laisse commencer.
Le'Veon Bell, de toute façon, je ne vais pas me le cacher, j'ai eu un respect assez moyen de ce trophée que je trouve un peu ridicule, mais il existe, donc on est obligé de le pronostiquer. Non, mais de toute façon, Bell, ça me paraît la solution la plus simple. Je trouverais juste ça assez bizarre de la NFL, de la part de la NFL, de le donner à un joueur qui a fait grève littéralement l'an dernier.
Oui, parce qu'on peut le dire, il a fait exprès, quoi.
Oui.
Juste pour avoir un trophée l'année prochaine.
Ah non,
il voulait le comeback player de l'année.
Mais du coup, d'être élu comeback player, d'être récompensé, parce qu'il a manqué une. Généralement, c'est les gens qui se sont blessés l'année d'avant, ou en tout cas qui ont eu une sale saison, quoi.
Est-ce que c'est plus ridicule que de le donner l'année où il l'avait donné à Philip Rivers, qui n'avait pas du tout manqué un match la saison d'avant, quoi.
Philip Rivers ne manque pas de match, Alain, s'il te plaît.
Ouais, mais pourquoi il était comeback player de l'année l'année d'après ?
Je suis d'accord avec toi. Non, mais d'où mon manque de respect pour ce trophée qui n'a aucune forme d'intérêt, mais voilà. Ça va probablement être Le'Veon Bell s'il fait une saison un tant soit peu correcte, parce que il était pas là l'an dernier, et du coup bravo à lui d'être revenu trop bien, quoi.
Bon, Grégory, t'as aussi Le'Veon Bell et moi aussi j'ai Le'Veon Bell, on est d'accord là-dessus.
Ouais.
Bon, il avait quand même 1291 yards au sol en 2017 et 655 dans les airs, il était aux portes du 2 milliards. Donc ça paraît pas être un pari délirant de dire qu'il pourrait avoir une petite influence sur l'attaque des.
Et peut-être Garoppolo si San Francisco fait une bonne année, non ?
Alors oui, Garoppolo,
on l'a eu une fois dans les votes aussi.
Il y a Demarius Thomas, Earl Thomas, Jimmy Garoppolo et Demarius Thomas. Il y a deux Demarius Thomas.
Demarius Thomas, je trouverais ça sympa pour le coup.
Voilà, hype Patriots.
Et tu vois, on disait Le'Veon Bell a fait exprès de pas venir pour avoir le comeback player de l'année. Garoppolo, tous les ans, dès qu'il voit que le MVP est trop loin, bim, il se pète et il se dit je mise sur le comeback player de l'année d'après.
Par contre, si Josh Gordon reçoit le titre de comeback player de l'année, il fait quoi ? Il dit faites comme moi, droguez-vous ? Ou c'est quoi le discours sur le podium ?
Tiens, c'est vrai que personne ne l'a mis, mais alors peut-être que. Ouais, parce qu'il a repris l'entraînement que ce matin, tu me dirais que ce lundi.
Pas de net, Josh Gordon, c'est impossible.
Je pense que la NFL aurait moyen politiquement de dire non, on a pas.
Bien sûr.
Il y a une bonne histoire à vendre.
Tout dépend de ses stats, et je sais pas.
Il y a une histoire à vendre, ça se ferait. Rookie offensif de l'année, alors là, on rentre dans le terrain de Grégory, donc on va le laisser commencer.
Ouais, bonne idée, ouais.
Rookie offensif, c'est vraiment le truc le plus facile cette année, je te le dis.
Qui va succéder à Nathan Peterman dans ton cœur ?
Franchement, j'ai galéré.
Bon, après, on peut dire, en règle générale, vraiment statistique, c'est plutôt, si vous devez mettre de l'argent, un quarterback qui va avoir du temps de jeu, quoi.
Oui. C'est pour ça. Alors, moi, j'ai mis Dwayne Haskins parce qu'on connaît mon affection pour ce joueur et je pense qu'il va progresser petit à petit et devenir titulaire des Redskins parce que je pense que Case Keenum assez rapidement, on se rendra compte assez rapidement qu'il n'est pas la solution chez les Redskins. Après, je ne sais plus quelle deuxième option j'avais en.
Kyler Murray quand même, non ?
Non, il n'y croit pas.
Non,
trop.
Ça n'a jamais été vraiment considéré.
C'est Metcalf, l'autre que je lisais.
Non plus.
Je peux pas t'aider. Mes connaissances s'arrêtent là, des rookies offensifs.
Alors, dans la rédac, il y a du Kyler Murray, Josh Jacobs, Deebo Samuel, Daniel Jones, DK Metcalf, Josh Jacobs, Edgy Brown, Dwayne Haskins. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc, Dwayne Haskins pour toi, Greg.
Ouais, quand même. Si, celui que je surveillerai, c'est Marquis Brown, le receveur de Baltimore.
C'est vrai que ça pourrait être pas mal. Donc, un quarterback, Dwayne Haskins. Raoul, pardon.
À peu près même logique que Greg, mais moi, de toute façon, ma connaissance des joueurs universitaires est un peu plus limitée que celle de Grégory.
On peut dire
qu'on a
fait télécopier sur moi.
Non, pas sur l'offensif, ça, c'est pas vrai. Oh. Mais non, en l'occurrence, Kyler Murray, il arrive dans une équipe où il n'y a pas énormément d'attentes et il a tout pour endosser le costume du futur franchise quarterback. Donc, s'il fait une saison à équilibre, au moins au niveau score, et avec un bon ratio de TD à interception, je vois mal comment il pourrait ne pas l'avoir.
Et alors, je vous ai dit une bêtise. Statistiquement, c'est pas forcément plus intelligent de miser sur un quarterback. Ah. Sachez que sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6 derniers rookies offensifs de l'année, il y a 4 coureurs, running back.
Ah.
Saquon Barkley l'an dernier, Alvin Kamara l'année d'avant, Dak Prescott en 2016, Todd Gurley en 2015, Odell Beckham en 2014, et en 2013, le rookie offensif de l'année, c'était...
En 2013 Robert Griffin.
Ah non, un coureur. Ah,
c'était 2013 d'avant,
ouais. Pour les Packers.
Eddie Lacy,
que j'avais en tête.
Bravo, Camille.
C'était Eddie Lacy, le running back rookie offensif de l'année. Comme quoi, vous voyez, c'est pas forcément une assurance de risque.
Wow, c'était un bon joueur.
Attendez, parce que Robert Griffin, c'était l'année d'avant ou je suis fou, il a
Robert
été...
Griffin, c'était en 2012, okay, ouais, juste ça. Avant. Juste avant Cam Newton. Par contre, là, après, avant, il y a du quarterback Cam Newton 2011, Sam Bradford 2010, Percy Harvin 2009.
Bradford 2010, quand même.
Matt Ryan, il l'a eu aussi, non ?
Matt Ryan 2008, Adrian Peterson 2007 et Vince Young en 2006.
Wow.
Allez, on va se faire un petit plaisir.
Beaucoup, c'est beau.
On va se faire un petit plaisir name dropping avec Kadiak Williams en 2005, qui était un autre
joueur. Quel joueur ? Lui aussi parti trop vite.
Je sais même pas qui c'est.
Kadiak Williams. Moi, j'ai Kyler Murray aussi. Pareil, logique bête et méchante. Quarterback, gros temps de jeu, numéro 1 de la draft. Donc, il y a tout, il y a la hype, il y a le coach qui va avec. Donc, pourquoi pas, même si c'est plutôt laborieux en pré-saison pour l'instant, à ce qu'on en a vu. Donc, moi, j'aime bien Dwayne Haskins aussi. J'aimerais bien une belle histoire d'une des Redskins cette saison. Ça se verra dans un de mes papiers très bientôt sur le site. Mais j'aimerais bien une...
Spoiler.
Ouais, spoiler. On va faire un papier sur les équipes qui pourraient vous surprendre. J'ai inventé une petite histoire pour les. J'ai fait de la fanfiction là pour les.
Est-ce qu'il y a un
pour
titre
les Redskins.
Putaclic dedans.
Non, pas forcément. Oh. Mais j'ai fait un peu de fanfiction si tu veux. À côté Twilight, c'est de la gnognotte. Messieurs, donc on a. J'ai pas celui de Raphaël, donc on a donc Dwayne Haskins pour toi, Grégory, et deux Kyler Murray. Rookie défensif de l'année. Alors là, Greg, il faut que tu commences.
Oui.
C'est stratégique, c'est Raoul Capon.
Alors là, c'est beaucoup plus dur. Alors moi, j'ai mis Devin Bush. Linebacker des Steelers qui correspond parfaitement au style de jeu de Pittsburgh et je pense que c'est pas un hasard si Kevin Colbert est monté pour le récupérer au 10e choix lors de la dernière draft. Donc je le vois bien s'insérer. On a vu des matchs notamment où il a été vraiment très très performant sur le run stop et je pense que ça va être une constante tout au long de cette saison. Après il y a d'autres candidats, Brian Burns à Carolina qui va me faire regretter un peu plus le fait que les Falcons ne l'aient pas drafté. Et je regarderai également Devin White à Tampa Bay, joueur que j'adore. Donc à mon avis, ce joueur entre ces trois là.
C'est
donc
qui le premier
Raoul,
que t'as dit
prends...
déjà
hmm
le premier que tu as donné
Devin Bush.
Devin Bush, bien sûr. Je crois énormément également en Devin Bush, qui en plus a les capacités pour vraiment bien s'intégrer dans le style de défense de Pittsburgh. En plus, le fait qu'il soit monté pour le chercher à la draft, c'est vraiment un excellent signe.
Moi, j'avais aussi Devin Bush pour le coup, par rapport à ce que j'ai vu en saison, en pré-saison. Comment ? Non, mais c'est vrai, pour le coup, je l'avais déjà. Mais non, j'aime bien ce que j'ai vu en pré-saison. Et comme tu dis, à Pittsburgh, je pense qu'il est dans un bon environnement pour que ça matche bien. Ça fait longtemps qu'il se cherche un linebacker un peu d'impact dans son secteur. Donc ça pourrait être quelque chose de pas mal. Je regarde du coup, comme on est tous d'accord, ce qu'il y a eu d'autre dans la rédaction. On a du Ed Oliver, du Brian Burns, du Nick Bosa, Dexter Lawrence, Rashan Gary. Il y a des beaux noms, hein. Il y a des beaux joueurs quand même. Josh Allen, oui, Josh Allen, ça pourrait être quelque chose, hein, du côté de Jacksonville, si on, surtout au vu de ses performances en pré-saison, ça pourrait être pas mal. Donc on a du Devin Bush de partout. Messieurs, voilà pour les pronostics individuels. Petit jingle et on parle évidemment de la timbale, du gros trophée Lombardi et des pronos collectifs.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
On est de retour, messieurs, c'est le grand moment. C'est le moment de vérité, c'est le moment où il faut se mouiller, le moment où nous allons dire qui va gagner le titre NFL en 2019-2020. Après cette émission, vous n'aurez plus besoin de regarder la saison NFL parce que vous allez savoir tout ce qui va se passer. Les pronostics, c'est maintenant. Messieurs, on va commencer par conférence.
Est-ce que c'est où, pardon, tu maudis une équipe pour l'année à venir? C'est pas comme ça que ça se passe tous les ans?
C'est très possible, parce qu'il y en a une que je vais un petit peu hyper pour rien, à mon avis. Voire deux. Une dans chaque conférence. Alors, il y en a une que je vais un tout petit peu hyper et l'autre que je vais beaucoup, beaucoup hyper.
C'est pas les mêmes, ça me va.
Donc, on va commencer par l'AFC. À chaque fois, on va tous donner qui va en play-off et qui gagne la conférence. Quand je dis qui gagne la conférence, c'est qui gagne la finale de conférence, oui. Bien évidemment. Donc on va commencer par l'AFC, ensuite on le fait avec la NFC. On donne juste nos choix. Je suis désolé, j'ai pas ceux de Raphaël, c'était juste pour pas qu'on en donne plein et qu'on s'embrouille. Par contre, j'aurai les choix de Raphaël pour l'affiche du Super Bowl et le vainqueur du Super Bowl. Donc, conférence AFC, qui va en play-off? Raoul, je te laisse commencer. Tes 4 vainqueurs de division et tes 2 strapontins en playoff.
Mes vainqueurs de division sera Patriots, Chiefs, Browns et Texans. Et je vois bien en wildcard les Chargers et les Jaguars.
Les Chargers et les Jaguars. Donc tu peux rappeler juste tes vainqueurs de division, Patriots, Chiefs, Texans.
Patriots, Chiefs, Browns, Texans.
D'accord. Et les wildcards,
Chargers et Jaguars.
Chargers et Jaguars, très bien. Grégory, alors attends, on va aller au bout, tiens, fais jusqu'au bout ton raisonnement, Raoul, qui se retrouve en finale de conf?
En finale de conf, Patriots Chiefs et les Chiefs au Super Bowl pour moi.
Allez, les Chiefs au Super Bowl pour Raoul. Grégory, les vainqueurs de division?
Vainqueurs de division, Patriots, Browns, Chiefs et Jaguars.
Ok.
Et en wild card, je dis Steelers et Chargers.
Steelers et Chargers. Très bien. Qui s'affronte en finale de conférence?
Kansas City reçoit New England.
Oh, je crois qu'on va tous avoir la même.
Mais c'est terrible, mais en même temps, c'est.
En même temps, c'est tellement homogène de dire aujourd'hui. Quoi. Que...
Ouais. Et donc, qui va au Super Bowl?
Kansas City.
Raoul, t'as donné qui au Super Bowl?
Kansas City également.
Kansas City aussi. Ça revient énormément dans la rédaction. Je ne vais pas vous le cacher.
C'est obligé.
Les vainqueurs de division pour moi, Chiefs, Patriots. Alors, Chiefs et Patriots, on va débriefer tiens, un peu au fur et à mesure que je donne les miens quand même. Donc, Chiefs, on a tous vainqueurs de division.
Mm-hmm.
Ok. Patriots, tous vainqueurs de division.
Quelqu'un d'autre serait assez fou. Mais...
Ça, ouais. Il y a les Dolphins, mais ça va être compliqué.
Dans l'AFC Nord... Déjà. Raoul t'as donné les Browns, ouais. Greg t'as donné les Browns aussi, j'ai les Browns aussi, donc on a tous les Browns, il y a grosse hype Browns quand même hein.
Ouais, mais les autres équipes je trouve ont vraiment baissé de niveau, là où les Browns certes se sont équipés et à voir ce que ça va donner, mais je trouve qu'il y a vraiment une baisse de niveau général de cette division depuis 2 saisons.
Après je suis pas sûr que les Steelers et les Ravens soient loin que ça, mais
à mon avis, on n'est
pas loin de se retrouver dans un scénario comme Pittsburgh l'année dernière qui finit avec un bilan positif malgré tout, mais qui, sur une défaite un peu à la con, enfin là en l'occurrence, dans mon cas précis, c'est plutôt les Ravens que je vois glisser, on va dire, sur un match un peu à la con pour y finir 7e de peu. Mais on n'est pas à l'abri d'avoir ce genre de scénario, et Cleveland, qui même sans faire 14 victoires en fin de saison régulière, réussit quand même à finir en tête de l'AFC Nord.
Non mais la division, quand à l'époque tu avais Steelers qui était au top, Ravens qui était au top et Bengals qui allait toujours chercher des playoffs.
C'est vrai.
Il y a une année, les trois vont en playoffs, il n'y a pas très longtemps, donc bon, là cette année c'est plus dur.
Alors du coup j'ai les Browns aussi, et en vainqueur de l'AFC Sud, donc c'est là où en fait on a la seule différence, Greg a les Jaguars, Raoul a les Texans. Alors je dois avouer que j'avais Colt sur ma fiche parce que forcément voilà, je l'avais préparé avant dimanche, mais donc je vais passer à Jaguars, notamment parce qu'en plus les Texans ont plus vraiment de jeu au sol et qui sont coachés par Bill O'Brien, donc je vais miser sur Nick Foles et cette défense des Jaguars qui va m'enthousiasmer à mon avis cette année, avec Josh Allen on l'a dit. Comment ?
C'est eux que tu hype en AFC ?
Non, alors non, la hype elle va venir sur les strapontins en playoff où je vais mettre les Steelers. Ouh. Et bon non, les Steelers, je pense que ça reste solide. Hein. Mm-hmm. Encore une fois, Ben Roethlisberger, il n'avait pas eu besoin d'Antonio Brown avant pour être performant, il l'a été après.
J'ai peur ce qu'il va dire.
Je vois Greg qui sourit parce qu'il sait ce que je vais dire.
Il va dire les Jets.
Et oui, je vais dire les Jets.
Incroyable, Alain Mottei qui essaye de se remettre les supporters des Jets dans la poche.
Allez, je mets les Jets en fait, j'hésitais entre Jets et Texans pour le dernier strapontin.
Par contre, juste, tu me permets, avant que je te laisse poursuivre, juste une petite parenthèse, parce que du coup, je sais pas si tu as enchaîné sur les Jaguars. La défense, forcément, ça va être important. Je regarderai aussi la ligne offensive. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont joué quasiment toute la saison dernière sans leur tackle gauche qui était Cam Robinson. Brandon Linder a raté des matchs, Andrew Norwell a raté des matchs. Et malgré tout, pour faciliter l'intégration de Nick Foles, je ne parle même pas du retour de blessure de Leonard Fournette, même si je sais que tu le considères comme une bombe à retardement perpétuelle. Oui. Mais en tout cas, ça fait quand même, je pense, un casting suffisant, même si l'escouade de receveurs m'a fait un peu peur, pour permettre à Jacksonville d'être dedans. Mais Indianapolis a ses chances, hein, même sans Andrew Luck, je le répète.
Non. On est d'accord. Laisse-moi maintenant finir quand même sur les Jets, parce que c'est quand même le moment où, où vous avez ri de moi, donc il faut quand même que j'explique. Alors, il y a deux choses. Un, je crois que Le'Veon Bell va avoir un vrai apport. Deux, je pense qu'ils ont des vrais bons joueurs en défense. Ils sont évidemment, et je l'avais dit dans une autre émission, c'est vraiment un meilleur scénario, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de blessures, parce que c'est un effectif évidemment peu profond, comme les équipes qui sont en reconstruction. Mais je mise sur développement de Darnold, plus l'impact de Le'Veon Bell, plus impact en défense de CJ Mosley et Quinnen Williams. Donc je les mets à la lutte, et du coup, parce que j'ai envie d'être joueur, je les mets en playoff. Et c'est aussi parce que je trouve pas que l'AFC soit d'un niveau exceptionnel autour de ça. C'est-à-dire que si je remonte le classement de l'an dernier, je pense pas que les Raiders vont forcément être au-dessus. Les Bills, je crois pas en Josh Allen, donc j'ai du mal. Les Bengals non plus, les Broncos n'ont pas d'attaque, les Dolphins non plus. Les Titans sont Marcus Mariota et pas d'attaque non plus. Les Colts non plus Andrew Luck. Les Ravens sont Lamar Jackson, dans lequel je crois pas. Et du coup, eh ben, il nous reste 6 places. Non, il reste juste les Texans. Voilà, il reste juste les Texans avec lesquels ils se retrouvent à la lutte. Et si tu mets tous les autres en playoff. Donc je trouve que numériquement... Comment ? J'ai oublié les Chargers, en effet. Ça, mais je tape sur une baisse de régime des Chargers.
Impossible.
Ils ont déjà plus d'Erwin James et je pense que tout ira pas dans leur sens.
Donc grosse hype Sam Darnold, on peut le dire quand même.
Exactement. Exactement.
Qui a fait plus d'interceptions que de gens l'année passée.
Broadway Sam.
Et ça devait être le cas de Peyton Manning dans sa première année.
D'accord. Voilà.
Je ne le compare pas à Peyton Manning sur le long terme, évidemment. La finale, ceci étant dit, sera pour moi aussi Chiefs-Patriots, et le vainqueur sera les Chiefs, histoire d'inverser le scénario de l'an dernier. On va passer à la NFC, et on repart avec toi, Raoul, pour tes vainqueurs de division et tes wildcards.
Alors, vainqueurs de division, j'ai Vikings, Saints, du coup, Eagles et Rams. Et je mettrai en wildcard les Packers et les Seahawks.
Et les Seahawks, c'est pas mal ça.
Tout à fait.
C'est pas mal. Finale NFC.
Alors finale, j'ai pas réfléchi, mais je vais mettre Saints-Eagles.
Saints-Eagles et au Super Bowl.
Les Saints.
Les Saints au Super Bowl, ouais. Donc toi, t'avais tablé grosse saison Saints.
Moi, j'ai dit Saints, déjà... Saints all the way. Je pense qu'ils gagnent même Saints.
Donc Saints, ah, tu veux me le dire après.
Ouais, ouais, mais je
Grégory, division, ouais, wildcard.
C'est dur en NFC. Eagles, à l'est, au sud, j'ai mis les Saints. J'ai mis les Rams à l'ouest, mais je le dis, Niners n'était pas loin.
C'est un peu par défaut aussi.
Et nord, j'ai mis Packers.
Ok, les wildcards.
Les wildcards, j'ai mis. Alors attends, mets-moi. J'ai mis les Bears et les Cowboys.
Les Bears et les Cowboys. Ouais, finale. C'est vrai que c'est très. Alors par contre, tu vois, je disais que je glisse les Jets en AFC parce qu'il y a pas mal d'incertitudes et tout ça. Autant en NFC, c'est blindé. Je pense qu'il y a 10 équipes que tu peux mettre en playoff sans te rougir. Hein. Mm-hmm. Donc la finale de conférence, Greg.
Eagles, Packers et victoire des Eagles.
Eagles, Packers et victoire des Eagles. Bon, là, je crois qu'on va vraiment avoir des choix très variés. Les vainqueurs de division pour moi, donc les Eagles, ça on l'avait tous.
Ouais.
NFC Nord, pardon. Donc moi j'ai les Packers. Greg, c'était
Packers. C'était Packers aussi.
Moi j'ai pris
Packers
Vikings.
Pour tout le monde. Non, ah, Vikings pour toi. Ok. Donc Eagles, Packers pour moi. Saints dans le sud. Là, on était tous d'accord. Oui. Et Rams à l'ouest. Tout Rams, d'accord. C'est pareil. J'avoue que j'ai dû. Je vais dire Rams, et c'est pour les strapontins en playoff où honnêtement c'est un enfer. Donc Eagles, Packers, Saints, Rams pour les vainqueurs de division. J'ai marqué en première intention Falcons, Vikings en wildcard, mais je suis vraiment pas sûr de moi. Ça me fait bizarre de laisser les Seahawks en dehors des playoffs parce qu'ils trouvent toujours un moyen d'y aller.
C'est pour ça que je les ai mis, j'avoue.
Ouais.
Donc, parce qu'il y a Russell Wilson aussi.
Ben, c'est ça, mais il y a Russell Wilson et Pete Carroll, donc à partir de ce moment-là, j'ai du mal à pas les mettre.
La défense me fait peur. Oubliez pas que Jaren Reed joue pas les 6 premiers matchs de la saison.
Oui. Mais,
Non, mais c'est pas grave, ils ont pas besoin d'autant de victoires.
Oui. Non, mais je vais rester.
J'aime mieux Russell Wilson, hein, mais la défense, enfin l'attaque peut pas tout faire non plus. Hein. Ah, ça.
J'ai pas de. Ouais, non, je vais rester sur Falcons Vikings, mais j'ai vraiment du mal. C'est une conférence très très dure. Et en finale, alors j'avais pas noté ma finale. Packers. Est-ce que du coup. Oui, bon, on va dire Packers Saints. Je vais pas faire toutes les têtes de série dans ma tête pour voir s'ils se rencontreraient bien en finale, mais je vais dire Packers Saints et Packers qui va au Super Bowl.
Oh! Ah c'est oui, grosse saison de Matt LaFleur.
Et Luck est parti. Rodgers redevient son chouchou.
C'est ça ma grosse hype. C'est Packers au Super Bowl.
Ouais.
Donc,
c'est pas Atlanta,
on a.
C'est bon.
t'as dit quoi
Désolé
c'est quoi
pour les fans des Packers.
J'ai dit ouf, c'est pas Atlanta, c'est bon.
C'est pas Atlanta. Non, mais ils sont en playoff. Hein.
Oui, ça m'a surpris à 100%, mais au moins il n'y a pas de hype.
Je suis chaud là.
Oui, parce qu'on rappelle que l'an dernier, je crois que Raphaël aussi, hein, on avait tous les deux donné les Falcons au Super Bowl, si je dis pas de bêtises.
Oui, ils étaient pas loin. Hein.
Oui, non, ça s'est joué un peu.
À 5 victoires près, on est en peur.
Exactement. Donc, on rappelle nos affiches du Super Bowl et notre vainqueur. Ah tiens, je vais donner l'affiche du Super Bowl de Raphaël, parce que ça, je l'ai.
Oui.
Il nous a donné... Ah bah tiens, tu vas être content, Greg. Vainqueur AFC Chiefs, vainqueur NFC Falcons.
Ça y est, la malédiction.
Et alors, je vais commencer avec le prono de Raphaël pour donner un vainqueur du Super Bowl. Donc, il a donné Chiefs Falcons au Super Bowl avec une victoire de Matt Ryan et les Falcons.
On précise que je n'envoie pas de chèque à Raphaël chaque année. Hein. Il fait ses pronos en conscience de. Voilà quoi.
Donc, on a un Chiefs Falcons avec victoire d'Atlanta. Ça, c'est pour Raphaël. Grégory.
Victoire des Eagles contre les Chiefs.
Victoire des Eagles contre les Chiefs. Donc, la NFC 2-0. Là, dans le...
C'est ça. Et Andy Reid qui pète les boules en Super Bowl contre son ancienne équipe. Ça me paraît pas mal.
Ça sera magnifique.
Raoul.
Victoire des Saints contre les Chiefs. Décidément, les Chiefs ne sont pas favoris de ce Super Bowl.
Ton scénario, il est catastrophique en fait. pardon, j'ai dit haute voix.
Oui, mais t'es avantagé dans aucun des pronos, Greg, parce qu'il y en a un qui donne les Falcons au Super Bowl vainqueur, et donc tu détestes ça vu que t'es superstitieux. L'autre qui donne les Saints vainqueur, là, si ça se réalise, c'est l'enfer.
Vous voulez me donner de l'urticaire ou quoi? Ça va pas.
Donc, Raoul, tu nous as dit Chiefs battus par les Saints.
Ouais, tout à fait.
Et bah écoutez, il y a un thème hein, dans ces pronos, on ne s'était pas concerté. Chiefs-Packers pour moi, victoire des Packers, parce que je vais aller jusqu'au bout de ma hype.
0-4 voilà. Pour les Chiefs, bravo.
Donc 0-4 pour les Chiefs, qui sont dans tous nos Super Bowls, mais qui perdent à chaque fois.
Ah, le manque d'expérience, la fougue de la jeunesse, Tyreek Hill suspendu la veille.
Je pense qu'il y a beaucoup de Tyreek Hill, je pense qu'on n'a pas envie qu'il revienne en fait.
Je pense qu'il y a un truc inconscient pour certains en effet. Après, ceci étant dit, ça se défend, tu parlais d'expérience, mais dans tous nos scénarios, ils perdent contre une équipe qui a déjà joué le Super Bowl.
Oui.
Les Packers, pour moi, Aaron Rodgers a déjà gagné. Les Saints, Drew Brees a déjà gagné. Greg, tu disais les Eagles, ils ont déjà gagné. Et puis Raphaël,
et puis
c'est contre
les Falcons.
Ils
ont mené 28-3.
Qui n'ont pas gagné, mais ils ont déjà joué. Donc toutes ces équipes-là ont déjà joué le Super Bowl. Pour le plaisir et pour l'extra point bonus, quand on se départagera, ou à mon avis qu'il n'y aura pas vraiment d'égalité dans quelques semaines ou dans quelques mois, votre MVP du Super Bowl, ce sera le méga bonus. Donc Raoul, tu as les Saints vainqueurs du Super Bowl contre les Chiefs, qui est le MVP du match?
Est-ce que je ne donnerais pas Alvin Kamara, tiens, pour rigoler? Ouais, je vais dire Alvin Kamara, parce que Drew Brees aura déjà été élu MVP de la saison, donc ça fera trop.
L'homme à tout faire, c'est Alvin Kamara. Greg, qui est le MVP donc des Eagles?
Eh ben moi, j'ai envie de faire un truc couillu, moi. Voilà. Fletcher Cox, MVP du Super Bowl.
Allez, ouais, un défenseur.
Oh, c'est pas
un
si
défenseur.
C'est possible.
Ah, Defensive Tackle, MVP, j'en ai pas eu beaucoup. Mais...
Je sais que Raphaël, alors il m'a pas donné son MVP du Super Bowl, mais comme il aime les défenseurs, tu crois qu'il miserait Vic Beasley? Ce serait une belle surprise.
Un Julio Jones, non?
Julio Jones ou Matt Ryan, je pense qu'on serait.
Matt Ryan, quand même.
Bon, et puis moi, je parachève évidemment le retour en grâce d'Aaron Rodgers avec bien un titre de MVP du Super Bowl. Puisqu'on n'est plus à ça près hein, dans cette
tout à
dans
fait.
Cette émission. Ça m'étonne que tu n'aies pas misé sur DeSean Kizer.
C'est la preview de tous les dangers.
T'imagines DeSean Kizer? Non, bon. Donc, Aaron Rodgers, MVP du Super Bowl.
Et il est qui? Il est plus chez Packers?
Non. Bon, bah écoutez, messieurs, on a donné nos pronos. On a 4 vainqueurs différents. Les Saints pour Raoul, les Falcons pour Raphaël, les Eagles pour Grégory et les Packers pour moi-même. Vous verrez encore une fois dans les pronostics de la rédaction, il y a un peu de tout. Il y a même un qui a osé les Chargers.
Incroyable, je n'ai pas payé cette personne non plus.
On a du Vikings, on a du Patriots évidemment, on a... Il n'y a pas tant de... Il y en a beaucoup qui reviennent quand même.
Les Chiefs, il y en a quelques-uns quand même où tout le monde les voit perdre.
Alors, ils sont énormément en finale.
Ouais.
Ça, clairement, ils sont dans beaucoup, l'immense majorité des finales. Et c'est vrai qu'ils les gagnent très peu. Ils les gagnent très très peu. J'en vois un, j'en vois deux, j'en vois trois.
Mais c'est parce que je pense que aussi dans nos têtes, de manière générale, la NFC est un peu plus forte que l'AFC. Et fatalement, les Chiefs arrivent là. Alors oui, en battant sans doute les Patriots en finale de conférence, mais derrière, c'est peut-être un peu moins fort.
Est-ce que leur défense aussi
c'est vrai que c'est pas une 45 points, c'est
voilà. En tout cas, ils sont pour l'instant sur ceux qui ont mis leur bulletin dans l'urne dans la rédaction. Il y en a 10 qui mettent les Chiefs au Super Bowl pour seulement 3 qui les font gagner.
Contre donc, qui, par curiosité
Alors, ils battent les Eagles, ils battent les Saints et ils battent les Saints.
D'accord, donc c'est globalement les mêmes équipes, quoi.
Globalement, on revient plutôt pas mal dans les mêmes choses. Ouais. Voilà, messieurs, pour les pronostics de la saison, nous sommes parés au décollage. Et c'est comme ça que se termine l'épisode numéro 299 du podcast Jeune Actu. Et nous sommes parés pour le décollage de la 300e, je vous le rappelle, qui sera enregistré en public au Hard Rock Café le 1er septembre. N'hésitez pas à réserver sur le site. C'était donc l'épisode 299. Merci beaucoup, messieurs.
Bah de rien.
Toujours un plaisir. Et puis j'espère, Alain, que pour dimanche, on aura un jingle Gérard Butler, quand même.
Gérard Butler, pourquoi?
Bah oui, pas pour 300.
Ah oui,
c'est l'acteur dans 300.
C'est vrai. Autant pour moi, j'ai pas
le nom d'un joueur qui s'appelait Gérard Butler. Parce que moi, non, je sais jamais. Hein. Parfois, il sort des noms, tout est là.
C'est ça.
C'est le fameux quatrième punter dont je parlais.
C'était le quatrième punter d'Appalachian State Tech il y a 2 ans. Il a été presque en NFL. Il a été très bon un mercredi soir pendant un entraînement du practice squad.
Il avait fait un essai avec les Buccaneers.
Bon, en tout cas, on vous remercie de nous suivre. Évidemment, on espère vous retrouver à la 300e et on mettra ça en ligne, évidemment, le lendemain. Elle aura un jour d'avance. On va la mettre le plus vite possible en ligne. Merci en tout cas si vous nous soutenez sur Tipeee. N'hésitez pas à rejoindre ceux qui le font. Et on vous dit donc à très bientôt. Merci Raoul. Merci Grégory. Merci beaucoup Camille Sarabène.
Merci à Andrew Luck aussi.
À la technique. Merci à Andrew Luck. Évidemment, petit ange parti trop tôt. Merci donc de nous suivre. L'actu de la NFL, touchdownactu.com, Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @TouchdownActu en entier. Les comptes Twitter perso @RaoulVDG, @CamilleSarabèn, @CieloRadioSa, @AlainMattei et @Raphaël_TDA pour notre ami Raphaël qui n'est pas là aujourd'hui. L'actu de la NFL, on vous l'a dit une dernière fois, TDActu.com. On vous souhaite une très bonne semaine. La saison approche. Ciao, ciao. Do now that you're gone. Under somebody new, well, that didn't take long. And where you gonna go? Not that I care. And who can you trust now that I'm not there? Never known such unhappiness. Now that you're gone, now that you're gone. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love.
60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.